Surpris par la nuit.
Feuilleton d'Ogon, une émission d'Antonin Potoski, réalisée par Pierre Villers. Nous sommes montés à pied sur la falaise à Yugana, à Yugadoguru et à Yugapri. Yugana est à mi-hauteur de la pente qui monte vers Yugadoguru, construit encore plus haut dans un éboulis gigantesque, au pied d'un dernier bout de falaise sombre, au débouché d'un défilé où l'eau coule pendant l'hivernage. On n'a aucune vue d'ensemble du village. Ce ne sont que des détours, des montées, des passages étroits au bord de gouffres au-dessus desquels on a calé des branches noueuses ou parfois de grosses pierres pour que l'on puisse se rattraper en cas de chute. Le danger devait être grand, il y a 200 ans, pour que l'on construise si haut, si caché, si loin de la plaine et des puits approvisionnés en eau toute l'année. L'endroit est frais, ombragé, beau parce qu'il n'est fait que de recoins et de secrets. Les greniers Telem, vestiges du peuple qui habitait la falaise avant les Dogons, sont construits de part et d'autre du chemin au début de la faille qui s'enfonce dans l'épaisseur de la falaise. Ils ont été recrépis, les villageois les utilisent encore. Après s'être engouffré dans le passage, on remonte sur le plateau et on découvre une vallée entre deux falaises qui se font face. C'est une sorte de baie, une vallée semi-fermée. Si c'était une côte maritime, nous serions passés d'un côté à l'autre de la presqu'île qui referme la baie. Pendant toute la traversée sur des sentiers que l'on devinait à peine à la patine de la pierre, face à un vent brûlant, absorbé par mon ampoule au pied droit que je devais à ma descente à Yaere, qui n'avait pas cicatrisé depuis et que chaque pas ouvrait un peu plus, j'ai cherché dans ma tête le fil, les mots et les airs de deux nouvelles chansons que je dois rapporter à Bamako. À Yugapri, nous avons partagé une grande bière, sans avoir mangé, et nous sommes repartis sous, totalement euphoriques, descendant dans les éboulis, jetés à nouveau sous le soleil, absorbés par la grande tache de lumière qui couvre ce pays. Feuilleton d'Ogon, première partie avec Kenekubo Dolo.
Découvrir les pays d'Ogon, les mystères de sa nature, l'authenticité culturelle, une culture sans frontières, un peuple fier de sa culture, une architecture impressionnante.
Avec Emmanuel Saye.
Si aujourd'hui, vous qui sont vraiment futurs anthropologues et puis sociologues, je ne sais pas, et vous devrez lutter pour votre culture. L'avenir de votre culture, si les pays de Gong aujourd'hui semblent un peu perdus, vous allez veiller sur ce sens.
Avec la voix de Germaine Dieterlin.
Il s'agissait à l'époque d'aller à Bordeaux, de prendre ensuite un bateau qui allait à Dakar et ensuite de trouver à Bamako un moyen d'aller à 800 autres kilomètres dans les falaises de Bandiagara.
Avec Tegué Dolo.
Et moi, pourquoi je n'ai pas dormi hier soir? Je travaillais pour tous les peuples d'Ogon.
Avec Anne Doquet.
Dans les festivals de masques nouveaux, on va retrouver ces attributs modernes. On va retrouver les tennis, on va retrouver les lunettes, on va retrouver...
Avec Atime Saï.
Même si je n'ai pas le business,
Même si je n'ai pas le business, je suis le fils de chef de village, c'est normal. Je suis un homme de respect.
Avec Amaïgéré Dolo,
aussitôt, des coups de fusil, tout le monde.
Et avec Lassi King Massassi.
Bana ale ka funeray o debe malibakono nga mafokai maforay ngo e malibakono ya e pays dogon ni bodon hodon ni todon hodon Germaine Diterlé Lassi King Massassi.
Mali, mois de mai, en pleine saison chaude. Au cybercafé à Bamako, je reçois un message de la radio qui me demande si je peux monter très vite une mission pour aller enregistrer les funérailles de Germaine Diterlin sur la falaise de Bandiagara. Germaine Diterlin était anthropologue, collaboratrice et successeuse de Marcel Griol chez les Dogons. Elle est retournée régulièrement dans sa maison de Sanga jusqu'à sa mort en 1999. La radio me rappelle dans une cabine téléphonique. La température oscille entre 40 et 47 degrés. On dort la nuit, mais le sommeil ne repose pas. Le corps se vide de sueur. On se réveille fatigué. Même la douche ne rafraîchit pas. L'eau est toujours chaude. J'ai téléphoné au producteur de documentaire qui avait informé la radio de cet événement. Le monsieur m'a gentiment rappelé en me recommandant de joindre son équipe, un caméraman, un preneur de son et une descendante de Germaine Diterlin, dès leur arrivée à Sanga, la commune d'Ogon à partir de laquelle Griol et Diterlin ont opéré et à partir de laquelle le tourisme se développe aujourd'hui, le passage de l'un à l'autre étant assuré par les mêmes familles liées aux anthropologues. Quand j'ai le caméraman au téléphone, je me présente avec beaucoup de précautions. J'explique que je ne suis pas journaliste, que cette position, venir s'ajouter à une autre équipe dans un petit village, ne m'est pas très agréable. Je lui dis même qu'à sa place, je serais un peu embêté. Il dit « Non, pas du tout, il faut juste qu'on mette en place un système pour que vous n'apparaissiez pas dans le champ de la caméra. » Il est chaleureux, il dit que les funérailles commenceront vendredi à l'aube, que rallieront le village la veille, qu'il faudrait que nous y soyons jeudi soir au plus tard. Il demande si nous connaissons des gens à Yuga, ce village haut perché dans la falaise où les funérailles auront lieu pendant 2 jours. Je dis que nous viendrons avec Emmanuel, fils du chef d'un autre village qui connaît bien le chef de Yuga. Le caméraman me prévient qu'il y aura sûrement une négociation à faire pour que nous puissions assister aux funérailles, que nous devrons régler cela directement avec les gens du village. Emmanuel, à qui j'en parle, n'est pas inquiet. Les funérailles sont des fêtes publiques auxquelles tout le monde est convié. On en parle loin du village pour qu'il y ait foule et que la fête soit belle. Pour ce qui est des enregistrements, ses amis de Yuga seront d'accord. Emmanuel a trouvé une voiture, un chauffeur. Il a chargé des cartons d'eau minérale. Et avec Pierre, tout juste arrivé de Paris, mercredi à l'aube, nous prenons la route vers Yuga. pourrions atteindre Sanga, sur le plateau de Bandiagara, à 15 km de Yuga, mais nous faisons escale à Ségou, chez l'artiste Amaigere Dolo, qui revient tout juste de la falaise, où il modelait des céramiques avec une potière, et qui nous demande une journée pour se préparer à repartir avec nous. Amaigere est très étonné, alors qu'il était sur la falaise, chez lui à Gogoli, un quartier de Sanga, de ne pas avoir entendu l'annonce de ses funérailles. Cette histoire ne lui semble pas claire. Les funérailles de Marcel Griaule ont eu lieu à Sanga en avril 1956. Elles ont eu un grand retentissement populaire. Celle de Germaine Dieterlin, que les Dogons associent à Griaule comme si elle avait été sa femme, devrait selon Amaigere être organisée à Sanga, c'était son lieu de résidence à partir duquel elle rayonnait pour ses recherches. Amaigere est également inquiet de l'absence du chef des guides de Sanga, lié à la famille des informateurs et à la mémoire de Griaule et Dieterlin. Si un tel événement se fait sans lui, si personne n'est au courant, nous avons une énigme à percer. Étant de Sanga, Amaigere ne nous promet pas de nous accompagner à Yuga. Il pourrait être considéré comme un traître par les gens de son quartier s'ils sont effectivement opposés à l'événement ou tenus à l'écart. Avant de dormir, à ses goûts, dans la cour, chez Amaigere, j'entends les Dogons qui rient de bon cœur en prononçant ces mots. Aube funérailles, les funérailles de l'aube. C'est la première fois de leur mémoire de Dogon qu'ils entendent parler de funérailles qui commenceraient à l'aube. Les funérailles d'une vieille dame auxquelles j'avais assisté avaient commencé dans l'après-midi. Elles avaient duré la nuit, le lendemain, la nuit suivante et s'étaient terminées à l'aube. C'est Jean Rouche, le cinéaste, qui aurait planifié les funérailles de Germaine Dieterlin à Yuga juste avant son accident mortel au Niger. S'il avait été là, c'est lui qui aurait tourné le film, c'est lui que nous aurions rencontré. Je me dis que Yuga a pu être choisi pour des raisons esthétiques. Le village est caché presque en haut de la falaise, sous un surplomb monumental, coupé droit, qui semble prêt à se détacher. On l'atteint plus facilement par la plaine en grimpant dans les éboulis. Du village, on accède au plateau par un réseau de failles profondes. Et je me dis que l'aube, pourquoi pas, c'est pour la lumière, pour les besoins du reportage. Au pays Dogon, les funérailles peuvent avoir lieu longtemps après la mort. On n'a plus besoin du corps, il est représenté par des habits qu'on couche sur une civière. La famille du défunt organise les funérailles quand elle a pu réunir assez d'argent pour payer les danseurs et la bière de mille qui sera distribuée à volonté à tous les visiteurs. Il semble que les images de ces funérailles seront intégrées à un documentaire sur Germaine Dieterlin.
Alors je me suis passionnément intéressé à la musique, j'ai fait du piano et du chant avec
Germaine Dieterlin.
Aucun espèce de talent. J'ai mis un certain temps à m'en rendre compte puisque les jeunes filles de mon époque faisaient de la musique ou de la peinture. Et puis que je me suis mariée. Et puis ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une famille. Et j'ai continué à faire de la musique. J'ai eu énormément d'amis musiciens et compositeurs dans ma vie pendant très longtemps. Et ça a continué, ça continuera. Parce que je considère que la musique est une chose absolument fondamentale et d'ailleurs mystérieuse au maximum. Et puis, il s'est trouvé que par les concours de circonstances, le fait que mes enfants avaient atteint un âge suffisant pour que je puisse les quitter momentanément, que ma famille, qui avait toujours voyagé, a parfaitement compris, et mon mari aussi, qu'on puisse le faire, que malgré toutes les oppositions que j'ai trouvées quelquefois, on me considérait comme complètement impossible parce que j'allais en Afrique noire avec Solange de Ganay. Je me demande pourquoi, mais enfin, c'était comme ça. Et que j'ai commencé à faire de l'ethnographie, mais bien avant de partir en Afrique.
À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton dessein, l'Afrique, Zini. Zile le mi de pauvres sans francs. Hore la huo de Rome. Debout sur les remparts. Nous sommes très jolis de mourir pour Afrique et pour toi, Mali. Non, ce drapeau sera liberté pour Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain. Les enfrelissés d'espérance, lesquels vivraient de confiance.
Éric Joly, place des Vosges à Paris. Il fait un peu froid hein, par rapport à la falaise.
Oui, oui, je crois que c'est pas le même climat, ni la même ambiance sonore. Encore qu'on pourrait croire qu'il y a des cascades vers le fond et qu'on est en saison des pluies en pays d'Ogon. Mais non, le temps, par contre, est pas du tout le même.
Avec Julie, vous êtes chercheur ?
Oui, chercheur en ethnologie. En fait, je viens, pour la petite histoire, je suis dans un laboratoire qu'a dirigé Germaine pendant un certain temps, le laboratoire Système de pensée en Afrique noire.
Quelle est la place de ce grand morceau de falaise posé au milieu du Sahel dans l'histoire de l'anthropologie ?
Elle est effectivement très importante parce que c'est la première société qui a été étudiée de façon intensive sur plusieurs décennies par plusieurs générations d'ethnologues. Dès le début de la professionnalisation de l'ethnologie française, elle prend une place très importante puisque les grandes missions ethnographiques des années 30 vont s'arrêter en pays d'Ogon et c'est pour cette raison que va débuter des études intensives en pays d'Ogon, alors d'abord initiée par Griaule, mais par un certain nombre d'ethnologues africanistes. Quasiment toute la première génération d'ethnologues africanistes est passée par le pays d'Ogon. On peut citer Michel Léris, qui accompagnait Griaule pour la première grande expédition transafricaine entre 1931 et 1933. Il y avait André Schaffner, qui va être le fondateur de l'ethnomusicologie française. Dakar-Djibouti était un peu spécifique parce que c'était une grande expédition ethnographique pluridisciplinaire, comme en fait on les concevait à l'époque, qui mélangeait donc des ethnographes de métier qui avaient été formés à l'Institut d'ethnologie, qui venait d'être créé il y a quelques années, hein, l'Institut d'ethnologie qui marque le début de l'ethnologie française en tant que discipline institutionnelle, ça date de la fin de 1925. Griaule est un des premiers diplômés de l'Institut d'ethnologie. Dieterren va être formé par l'Institut d'ethnologie qui forme des ethnographes de terrain, alors que au départ c'était plutôt des chercheurs de cabinet ou des anciens administrateurs coloniaux qui s'étaient formés sur le terrain à la discipline ethnologique, à la linguistique, etc. En 1937 arrive Germaine Dieterlin avec Solange de Ganay. Elles vont rester en fait plusieurs mois sur le terrain en pays d'Ogon, seules, et c'est Griaule qui va les rejoindre peu de temps d'ailleurs, hein, parce que lui revenait, c'était un ethnographe infatigable, il revenait de l'expédition Sahara-Cameroun de 36-37, en passant par le pays d'Ogon, rejoint donc Germaine Dieterlin et Solange de Ganay pour revenir sur Paris ensuite. Germaine Dieterlin restera plusieurs mois, Solange de Ganay encore plus, puisque je crois qu'elle passera 8 mois sur le terrain. C'est d'ailleurs assez amusant de voir que c'est les femmes, à l'époque, qui passent le plus de temps sur le terrain. En 1938, Germaine Dieterlin revient avec Griaule pour son deuxième séjour en pays d'Ogon, dans le cadre de la mission Le Beau du Griaule, la dernière grande expédition, un peu grande expédition ethnographique, qui traverse le Sahara encore une fois, mais qui va se diriger sur le Tchad. Et Germaine, elle, reste en pays d'Ogon et va encore mener seule, cette fois, des enquêtes en pays d'Ogon. Et ensuite, elle va participer, Germaine Dieterlin, à toutes les missions après-guerre. Il va y avoir l'interruption de la guerre, évidemment, mais après la guerre, à partir de 1946, elle va participer à la plupart des missions avec Griaule, ce qu'on appelait les missions Niger, dans la boucle du Niger. Là, ils vont rester soit en pays Dogon, soit en pays Bambara, Bozo. Et Germaine va, après la mort de Griot, le début 56, va continuer, elle, à travailler en pays Dogon pratiquement jusqu'à sa mort. Mais toujours, c'est un peu la spécificité, un peu, en tout cas, des missions Griot, dont faisait partie Germaine, c'est plutôt des courts séjours répétés que des longs séjours d'immersion dans la société.
Nous avons travaillé avec les gens, modestement avec les gens avec lesquels Griot avait travaillé, qui sont venus nous trouver, comme toujours, avec la plus parfaite urbanité. C'était d'ailleurs difficile parce que nous étions des femmes et que la présence masculine de Griot manquait beaucoup. Ils ont montré une très grande gentillesse parce que les connaissances des hommes ne sont pas celles des femmes et que certainement le fait que nous étions des femmes ont fait que on disait ou on ne disait pas certaines choses. D'abord, les Dogons sont des Grecs classiques. Ils redoutent la parole. Alors, ils redoutent le trop discours, le trop parler. Ils parlaient avec Griot, ils l'ont accepté, ils ont parlé avec ceux qu'avait envoyé Griot, avec toute la réserve qu'il a fallu, puisqu'ils n'ont commencé vraiment à parler qu'après la guerre, n'oubliez pas. Jusque-là, ils nous disaient tout sur ce qu'on pouvait voir, regarder, etc. Tout ce qu'ils pouvaient dire à des enfants ou à des étrangers. C'est la première formulation. Les Dogons, comme nous, ont un grade dans l'enseignement. Ils ont considéré bon qu'on voulait s'enseigner. Bon, du moment qu'on voulait s'enseigner, on suit la règle. La règle, c'est quatre paroles. Ils appellent ça parole, c'est plus simple. Mais ça implique le discours, l'enseignement, la connaissance, etc. La première, c'est la primaire, c'est ce qu'on dit aux enfants, aux étrangers, et même à certains adolescents. Bon. La deuxième, c'est ce qu'on dit quand on va un peu plus loin. C'est l'école secondaire, si vous voulez. Alors là, on va plus loin, on parle de l'histoire, on parle de l'environnement, on parle du commerce, on parle aussi légèrement de la mythologie sous-jacente à la religion, qui n'est pas une religion, qui est une tradition. C'est une religion, c'est nous qui appelons ça comme cela. Le mot n'existe pas en Afrique traditionnelle. C'est vraiment ce qu'on appelle la connaissance de l'univers. Bien. Alors ça, on parle, comme disait Mpateba, à la limite de leur entendement. Il ne faut pas parler aux gens en dehors de la limite de leur entendement. Quand ils ont avalé le secondaire, qui est la deuxième parole, on passe à ce que moi j'appelle le supérieur, on commence à aborder les problèmes difficiles. Ça, ils l'ont fait en 1948, pas en 1937 avec Solange et moi, ni même en 1938-39 avec Griot, Solange et moi.
Germaine Dieterlin, je crois, rencontre Griot fin des années 30, début des années 31, juste avant la mission Dakar-Djibouti. En fait, elle fait, pour comprendre pourquoi effectivement on passe de la grande bourgeoisie sévenole aux expéditions ethnographiques des années 30, il faut savoir qu'effectivement le musée de l'homme, à l'époque, attirait beaucoup le tout Paris, à la fois mondain et populaire. Il faut dire qu'on était fin des années 20, début des années 30, c'était le colonialisme triomphant. On célébrait un peu l'Empire français et donc les colonies Et donc ça réunissait à la fois la grande bourgeoisie, les mécènes, beaucoup de mécènes finançaient des expositions. D'ailleurs, la Société des Amis du Musée de l'Homme, ou avant des Amis du Musée d'Ethnographie du Trocadéro, c'était des gens de la noblesse ou de la grande bourgeoisie. Et donc, fin des années 20, début des années 30, il y a un certain nombre de grandes bourgeoises. C'est pas péjoratif de dire ça, parce que je crois que même Denis Paulme disait qu'effectivement, pour faire de l'ethnologie, la première question qu'on posait à l'époque, c'est: est-ce que vous avez les moyens que vos parents vous payent ou que vos maris payent pour faire de l'ethnologie? C'était quand même une certaine élite qui faisait de l'ethnologie. C'était le début de la professionnalisation de l'ethnologie. Et donc, en fait, on retrouvait au Musée de l'Homme, plus exactement au Musée d'Ethnographie, un certain nombre de femmes, d'ailleurs c'était essentiellement des femmes, qui bénévolement, en fait, donnaient un coup de main.
Alors, quand le musée a été organisé, je me suis occupée des photographies à coller. Et je me vois encore avec Denise Supervielle en train de coller les photographies au Musée de l'Homme et de créer, je peux dire franchement, la section, beaucoup plus importante actuellement, de photothèque. C'est passé entre 31 et 33. Et j'avais une très grande intérêt et sympathie pour ce musée et pour les amis que je m'étais fait là-dedans, parce que nous étions nombreux. Et puis Marcel Griaul est rentré en 33. Ça a été une chose extraordinaire. Il a rapporté des collections exceptionnelles qui sont toujours là. Il s'est occupé complètement de classer ses documents avec ses adjoints, et l'ayant retrouvé ou les ayant connus, il a commencé à me demander de faire, si vous voulez bien, faire un travail, comme il disait, un peu intelligent, qui consistait à s'occuper des calebasses d'Aoméennes. Bon, vous ne connaissez rien aux calebasses d'Aoméennes. Il s'agissait de les reproduire. Et là, c'est amusant parce que c'est Paul-Émile Victor qui, me voyant sécher devant le fait de comment reproduire les dessins d'une calebasse ronde, un jour me voit là-devant et me dit: je vais vous dire comment vous allez faire.
Dans la série « Le monde comme il va », la radiodiffusion télévision française présente Hommage à Marcel Griaul, une émission spéciale de Pierre Ichac consacrée au premier anniversaire de la mort du grand ethnologue. Ceci se passait le 7 avril 1956 au Soudan, dans la boucle du Niger, devant le gîte d'étape du village de Sanga, bâti sur la pente des falaises, au cœur du pays d'Ogon. Les Dogons célébraient ce jour-là les funérailles d'un blanc, d'un Français, né dans la métropole, Marcel Griaul, professeur à la Sorbonne, conseiller de l'Union française. Marcel Griaul était mort à Paris le 23 février précédent, à l'âge de 57 ans, son grand cœur généreux usé par le travail. Et dans une église parisienne, une foule d'amis avait prié autour de son catafalque. Désormais, son corps reposait dans un cimetière de France. Cependant, le 7 avril, au village de Sanga, au cœur des falaises, les Dogons célébraient ses funérailles. Ils rendaient à ce blanc les honneurs funèbres que l'on doit aux seuls membres de la communauté Dogon. 6 jours de cérémonie, dont les échos sonores ont été recueillis par un témoin, un ami plus jeune des Dogons, François Didiot.
C'est un souvenir inoubliable, d'autant que, étant avec mes camarades les seuls blancs dans cette région, pour la grande majorité des Dogons qui se trouvaient là, nous étions pour eux la famille de Griaule. Ils venaient nous présenter leurs condoléances, nous embrasser les mains, les femmes pleuraient. Enfin, c'était quelque chose de très déchirant.
C'est vrai qu'il semble que les funérailles de Griaule aient été spontanées au sens où c'est bien les Dogons, en tout cas les proches, des informateurs, interprètes, mais à l'époque, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour des missions Griaule, qui a un peu commandité ces funérailles. D'ailleurs, aux funérailles, il y avait peu de gens. C'est au moment de la levée de deuil où vont se déplacer un certain nombre de personnalités. Mais aux funérailles, il y a finalement très peu de monde extérieur. Alors, au-delà de l'hommage à Griaule, et notamment l'hommage peut-être moins à l'ethnologue qu'à celui qui avait fait le barrage à Sanga dans les années 48, il faut voir aussi, c'était une décision un peu politique. D'abord, c'était pour les proches de Griaule à Sanga un moyen d'être reconnu socialement. Et puis, au niveau politique, c'était clair dans le cas de la levée de deuil, ça a été un moyen pour, disons, toute l'élite politique de la région d'essayer aussi de poursuivre un peu le combat politique de Griaule qui voulait reconnaître aux autorités politique dogon locale, une certaine forme d'autorité. On est encore dans la période coloniale, alors qu'on était dans une optique d'administration directe, etc. Griaule, lui, prenait depuis la fin des années 40, il a par ailleurs, Griaule, une activité politique au sein de l'Union française. Lui, il cherche plutôt à donner du pouvoir aux chefs locaux, Ogon, qui sont les chefs politico-religieux traditionnels du. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de représentants, dont le représentant du Ogon d'Arou, vont faire des discours au moment de la levée de deuil de Griaule pour que les conseils de Griaule soient retenus, etc. En fait, Griaule avait une posture à la fois anti-assimilationniste et une posture un peu paternaliste, qui n'était pas propre à Griaule, d'ailleurs qui était partagée par un certain nombre d'ethnologues de l'époque, même s'il y avait déjà, dans la fin des années 50, on pense bien sûr à Balandier mais et à plein d'autres, qui avaient déjà une posture résolument anticolonialiste. Griaule, lui, était plus, disons, un réformiste qu'un anticolonialiste, mais c'était question de génération aussi. Par exemple, Léris a affiché une posture anticolonialiste, en fait, très tardivement.
La cérémonie commence, comme toutes les funérailles d'Ogon, par des coups de feu et le fameux chant Aéo, qui est le chant de lamentation, car les hommes d'Ogon n'ont pas le droit de pleurer et ils chantent. La foule revient devant le campement, sur le village. Le campement se trouve un peu au-dessus du village. Et pendant 3 jours et 3 nuits, sans interruption, ce sont les fêtes arrosées abondamment de bière de mille, le dolo. Tous les villages à tour de rôle, les chanteurs de tous les villages à tour de rôle se réunissent en groupement de chanteurs et viennent chanter ces mêmes chants qui sont répétés inlassablement. Les gens affluaient petit à petit, venaient de plus en plus nombreux de tous les coins de la falaise, venaient à pied, certains avaient fait 3, 4, 5 jours de marche. Ça nous dépassait, nous étions pris dans cette atmosphère, dans cette force.
Oui, c'était donc en décembre dernier, le dernier passage de Jean Rouge sur la falaise. Il est allé, juste avant son accident au Niger, il est allé organiser les funérailles de Germaine Dieterlin à Yuga, Nogoru, où ont lieu les funérailles.
Oui, enfin bon, là c'est des informations qui nous sont parvenues après, parce que peu de gens étaient au courant, en fait, tout cas dans le milieu des ethnologues, effectivement du passage de Rouche en Pays Dogon pour organiser les funérailles de Germaine. Ce n'est qu'après coup, en fait, après son décès, qu'on a su qu'il était effectivement passé juste avant en Pays Dogon pour essayer de régler les préparatifs des funérailles de Germaine. Mais on ignorait tout, en fait, des conditions dans lesquelles ça s'était passé. Et d'ailleurs, on imaginait plutôt que les funérailles se passeraient à Sanga plutôt qu'à Yougo, parce que, en fait, Germaine Dieterlin était liée de façon beaucoup plus forte à Sanga. C'était là où elle séjournait, c'était sa base. Et à Yougo, en fait, ce n'était que ponctuellement qu'elle allait à Yougo. Depuis peut-être les 30 ou 40 dernières années, il n'y avait aucun informateur, aucun contact, sauf par l'intermédiaire du Sigi. Ça devait être en 67 que le Sigi commence à Yougo Dogorou. Ils ont filmé le début du Sigi à Yougo Dogorou. À part le Sigi en 67, Germaine Dieterlin n'avait aucun informateur particulier à Yougo. Donc c'était un peu une surprise de voir que les funérailles ne se déroulaient pas à Sanga. C'est un peu mystérieux.
Nous avons eu la chance de filmer les cérémonies du Sigi qui n'ont lieu que tous les 60 ans et qui commémore l'invention de la parole et, comme conséquence, l'invention de la mort.
Jean Rouche.
Ces rituels du Sigi, Griol les avait décrits minutieusement dans sa thèse, mais c'était des témoignages de gens qui avaient fait un Sigi dans les années 1910, donc 20 ans après, et il les avait décrites. Et nous avons eu la chance avec Germaine, pendant 7 années, de suivre ce rituel. Nous avions un texte écrit qui nous disait ce qui allait se passer, et de découvrir année après année, en faisant du film, que contrairement à ce que pensait Griol, car il ne pouvait pas le savoir, il s'agissait d'un mythe itinérant à 7 chapitres chaque année, et qu'aucun de ces sigis n'était les mêmes, mais racontait une histoire fantastique, 3 rituels de la mort et 4 rituels de la vie, qui ont lieu tous les 60 ans. Et nous avons eu le premier film, nous avons tourné à Yougo, il était tellement extraordinaire que je n'ai pas pu le monter. Nous ne pouvions pas faire de commentaires, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Il n'était pas conforme à ce qui avait été dit. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas le grand bois, il n'y avait rien. Au second, on voit arriver un masque, je vais dans la caverne, ayant participé au Sigi, je parlais de la caverne des masques, où il y avait 4 masques datant de 240 ans, les premiers datant de 240 ans qui étaient là, mais les masques nouveaux n'étaient pas peints. Et l'année suivante, à Bongo, là nous voyons les masques peints, on les voit dressés.